Audible.fr, bougez, vous lisez.
Stephen King, La Tour sombre 1, Le Pistolero. Texte revu et enrichi par l'auteur. À Ed Ferman, qui se risqua à croire à toutes ces histoires, l'une après l'autre. Une pierre, une feuille, une porte dérobée. D'une feuille, d'une pierre, d'une porte, et de tous ces visages oubliés. Nus et scellés, nous avons connu l'exil. Dans sa sombre matrice, nous n'avons pas reconnu le visage de notre mère. Quittant la prison de sa chair, nous pénétrons dans la prison innommable et indicible de cette terre. Qui de nous a réellement connu son frère? Qui de nous a su sonder le cœur de son père? Qui de nous n'est pas demeuré éternellement prisonnier? Qui de nous est autre que cet étranger solitaire, à jamais? Ô, tout errant que tu sois, chagriné par le vent, fantôme, reviens-moi. Thomas Wolfe, Que l'ange regarde de ce côté, 1929. Première partie. 19. Retour éternel. Le Pistolero. Chapitre 1. L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le suivait. En matière de désert, celui-ci était une apothéose, gigantesque, tendue vers le ciel dans ce qui ressemblait à l'éternité, dans toutes les directions. Il était blanc, aveuglant et aride, sans aucun relief, hormis la ligne brumeuse des montagnes à l'horizon et l'herbe du diable qui faisait naître des rêves, puis des cauchemars, et pour finir la mort. Ça et là, une pierre tombale indiquait le chemin, car ce sentier à la dérive qui se creusait une voie dans l'épaisse croûte d'alcali avait été une grande route. Diligence et Boucas l'avaient emprunté. Depuis lors, le monde avait changé, le monde s'était vidé. Le pistolero s'était trouvé frappé d'un vertige passager, comme s'il avait fait une embardée, une sensation qui avait donné au monde entier une dimension éphémère, presque comme si on pouvait voir à travers. Le vertige passa, et comme ce monde sur le cuir duquel il cheminait, il changea de perspective. Il fit défiler les kilomètres d'un pas égal, sans presser l'allure, mais sans trélasser. Une outre de peau lui saignait la taille comme une saucisse boursouflée. Elle était presque pleine. Il progressait ainsi dans le kef depuis des années et devait bien en avoir atteint le cinquième niveau. S'il avait été un saint homme mani, il n'aurait probablement pas ressenti la soif. Il aurait pu regarder son corps se déshydrater avec un détachement clinique, n'en humecter les crevasses et les sombres replis internes que lorsque la logique le lui aurait dicté. Cependant, il n'était pas un mani, ni un disciple de l'homme Jésus, et ne se considérait en aucun cas comme un saint. Autrement dit, il n'était qu'un pèlerin ordinaire, et tout ce qu'il pouvait affirmer avec certitude, c'est qu'il avait soif. Pourtant, il ne ressentait aucune urgence particulière de boire. Et tout cela le réjouissait, d'une manière assez floue. C'était ce qu'exigeait ce pays assoiffé. Et durant toute sa longue vie, il avait été avant tout adaptable. Sous l'outre bombée étaient fixées ses armes, soigneusement lestées à sa main. Il avait fallu ajouter un plaquage lorsqu'elle lui avait été transmise par son père, car ce dernier était plus léger et plus petit que lui. Les deux ceinturons lui barraient le ventre et se croisaient juste au-dessus de l'entrejambe. La graisse avait pénétré si profondément le cuir des étuis que même ce soleil philistin ne parvenait à le craqueler. Les crosses étaient en bois de santal, d'un grain jaune, très fin. Des lanières de cuir brut maintenaient les étuis en place sur ses cuisses, contre lesquelles il battait au rythme de ses pas. Le frottement avait dessiné deux demi-lunes plus claires et moins épaisses sur le tissu de son jean, deux arcs qui rappelaient presque des sourires. Les alvéoles de cuir des balles fichées dans le ceinturon dessinaient des hologrammes dans la lumière du soleil. Il lui restait moins de balles à présent. Le cuir poussait de subtils gémissements. Sa chemise, de cette non-couleur propre à la pluie et à la poussière, était ouverte sur la gorge et ornée d'une lanière de cuir qui pendait mollement des œillets perforés à la main. Son chapeau avait disparu, de même que le corps qu'il avait porté jadis. Disparu depuis des années, ce corps qu'il avait laissé échapper des mains d'un ami mourant. Et tous deux lui manquaient. Il atteignit le sommet d'une dune en pente douce. Bien qu'il n'y eût pas de sable, rien qu'une croûte dure, même les vents violents qui soufflaient une fois l'obscurité venue ne faisaient que soulever une poussière âpre comme de la poudre à récurer. Là, il aperçut les restes piétinés d'un minuscule feu de camp du côté soulevant, celui que le soleil déserterait en premier. De petits signes tels que celui-ci, qui attestaient une fois de plus la possible humanité de l'homme en noir, ne manquaient jamais de le réjouir. Ses lèvres s'étirèrent en travers de ce qui lui tenait encore lieu de visage, tout desquamé, constellé de cicatrices. C'était là un rictus épouvantable, douloureux. Il s'accroupit. Sa proie avait fait brûler l'herbe du diable, bien sûr. C'était la seule chose ici qui voulait bien brûler. Ce faisant, elle diffusait une lumière jaune et graisseuse, et elle se consumait lentement. D'après les frontaliers, les diables venaient danser jusque dans les flammes. Eux faisaient brûler l'herbe, mais se gardaient bien de regarder les flammes dans les yeux. Ils disaient que les diables hypnotisaient, attiraient, puis finissaient par emporter quiconque regardait droit dans les feux. Et le prochain, assez stupide pour regarder lui aussi, pourrait bien vous y voir, vous. Les brins d'herbe calcinés étaient entrecroisés en un dessin idéographique devenu familier, et qui perdit soudain tout sens, réduit à un petit tas gris et absurde par une pichenette du pistolero. Rien d'autre dans les cendres qu'un ruban de bacon carbonisé qu'il grignota d'un air pensif. Il en avait toujours été ainsi, depuis 2 mois que le pistolero poursuivait l'homme en noir dans ce désert, à travers ces terres désolées et interminables, ces paysages de purgatoire d'une monotonie à hurler. Et il lui restait encore à trouver des traces autres que ces idéogrammes hygiéniques et stériles que dessinaient les feux de camp de l'homme en noir. Il n'avait trouvé ni boîte de conserve ni bouteille, ni même une outre. Le pistolero en avait laissé 4 derrière lui, comme des mues de serpents. Il n'avait pas trouvé d'excréments. Il supposait que l'homme en noir les enterrait. Peut-être les feux de camp épelaient-ils un message. Une grande lettre à la fois. « Garde tes distances, l'ami, » disait-il peut-être. « Ou bien, tu touches au but. » Ou peut-être même, « Viens m'attraper. » Peu importait ce qu'il disait ou ne disait pas. Il se préoccupait peu des messages, si messages il y avait. Ce qui comptait, c'est que ces restes-là étaient aussi froids que tous les précédents. Pourtant, il avait gagné du terrain. Il savait qu'il se rapprochait, sans savoir comment il le savait. Une odeur, peut-être. Ça aussi, c'était sans importance. Il continuerait jusqu'à ce que quelque chose change, et si rien ne changeait, il continuerait de toute façon. Il y aurait de l'eau, si Dieu le voulait, comme disaient les anciens. De l'eau, si Dieu en décidait ainsi, même dans le désert. Le pistolero se leva et s'essuya les mains. Aucune autre trace. Le vent, acéré tel une lame de rasoir, avait bien sûr effacé les maigres indices dont le sol dur comme la pierre avait pu garder l'empreinte. Pas de déchets jetés en route, jamais la moindre trace indiquant qu'il avait enterré quoi que ce soit. Rien. Rien d'autre que ces feux de camp refroidis le long de l'ancienne route de l'Est, et ce télémètre implacable à l'intérieur de son crâne. Mais il n'y avait pas que ça, évidemment. Cette force qui le tirait vers le sud-ouest n'était pas qu'une question d'attraction. C'était plus encore que du magnétisme. Il s'assit et s'offrit le luxe d'une gorgée tirée de l'outre. Il repensa à ce moment de vertige, un peu plus tôt, à cette sensation de n'être plus rattaché au monde, et il se demanda quel pouvait en être le sens. Pourquoi ce vertige avait-il convoqué l'image du corps et celle du dernier de ses vieux amis, tous deux perdus si longtemps auparavant, à Jericho Hill? Mais il avait toujours les pistolets de son père, et ils étaient assurément plus importants qu'un corps, ou même qu'un ami. Non? Cette question le troublait étrangement, mais puisqu'il semblait n'y avoir d'autre réponse que l'évidence, il la mit de côté, peut-être pour la reconsidérer plus tard. Il balaya le désert du regard, puis leva les yeux vers le soleil qui glissait à présent dans son dernier quart de ciel, qui, pourtant, détail dérangeant, n'était pas plein ouest. Il se releva, retira ses gants élimés de sa ceinture et se mit à arracher de l'herbe du diable pour se faire lui aussi un feu qu'il bâtit sur les cendres laissées par l'homme en noir. Il y vit une ironie aussi amèrement attendrissante que la soif qui le tenaillait. Il attendit, pour sortir la pierre et le briquet de son sac, qu'il ne resta plus des derniers feux du jour qu'une chaleur fugitive du sol sous ses pieds et une ligne d'un orange sarcastique sur l'horizon monochrome. Il demeura assis, là, son ghana posé sur ses genoux repliés, à contempler patiemment en direction du sud-ouest, vers les montagnes. Non pas dans l'espoir de voir s'élever la fine colonne de fumée d'un autre feu de camp, mais dans le seul but d'observer, car observer faisait partie du jeu, et ce jeu recelait une satisfaction amère, bien particulière. « Tu ne verras pas ce que tu ne cherches pas, l'asticot !» aurait dit Corte. « Ouvre-moi ces pauvres mirettes que les dieux t'ont données, tu veux bien ?» Mais il n'y avait rien. Il était près, mais d'une proximité toute relative. Pas assez près pour voir de la fumée dans le crépuscule ou le clin d'œil orange d'un feu de camp. Il fit jaillir l'étincelle de la pierre, enflamma les brins d'herbe sèche, tout en marmonnant ses puissantes paroles, anciennes et insensées. « Fuse, fuse, belle étincelle, où donc est mon père? Dois-je m'étendre? Dois-je m'éteindre? Que ton feu réchauffe ma tanière. » C'était étrange comme on abandonnait certains des mots et des gestes de l'enfance, et comme d'autres s'accrochaient fermement et accompagnaient toute une vie, de plus en plus lourde à porter à mesure que le temps passait. Il s'allongea contre le vent, près de son petit brasier, laissant la fumée des rêves se dissoudre dans les étendues infinies. Hormis quelques tourbillons de poussière aléatoires, le vent était constant. Au-dessus de lui, constantes elles aussi, les étoiles ne clignotaient pas. Des soleils et des mondes par millions, des constellations étourdissantes, du feu glacé dans toutes les teintes primaires. Sous ses yeux, le ciel vira de l'indigo à l'ébène. Un météore dessina un arc de cercle fugace et spectaculaire en dessous du vieil astre, puis s'éteignit en un clin d'œil. Le feu projetait d'étranges ombres, tandis que l'herbe du diable se consumait lentement, composant de nouveaux dessins, non plus des idéogrammes, mais un enchevêtrement sans complexité, vaguement effrayant dans sa fiabilité bien à lui, sans logique. Il avait disposé son combustible non pas dans un souci artistique, mais pratique. Il parlait de noir et de blanc. Il parlait d'un homme capable qui sait de remettre de l'ordre dans des chambres d'hôtel inconnues. Le feu brûlait de ses flammes basses et ralenties, et des visions dansaient dans son cœur incandescent. Le pistolero ne les voyait pas. Les deux motifs, l'art et l'artisanat, se soudèrent l'un à l'autre pendant son sommeil. Le vent gémissait, sorcière tordue par le cancer dans son ventre. De temps à autre, un courant d'air pervers faisait tourbillonner la fumée à la manière d'un petit caillou qui, en tournant dans une huître, parfois devient perle. Parfois le pistolet rouge gémissait de concert avec le vent. Les étoiles étaient aussi indifférentes à ce spectacle qu'elles l'étaient aux guerres, aux crucifixions ou aux résurrections. Voilà qui l'aurait sans doute réjoui.